Il n'y a pas photo. Il est sage d'éviter les gens qui ont un tempérament violent. Un proverbe dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne tes griefs avant qu'éclate la dispute. » Oui, mais attention. Cela ne veut pas dire qu'éviter les conflits à tout prix est toujours une bonne idée. En ce bas monde corrompu, il est parfois nécessaire de se battre. C'est aussi l'avis de Dieu, qui dans les Écritures se présente souvent comme le Seigneur des armées célestes, ou utilise un vocabulaire guerrier. Je continue de lire dans le chapitre 14 du livre de Zacharie. « Puis l'Éternel viendra combattre ces nations, comme il l'a fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. » Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le prophète fait d'abord une déclaration d'ordre général qui correspond à l'attitude du Seigneur à travers l'histoire vis-à-vis de son peuple. Ensuite, il est spécifique et pointe son doigt sur le jour où Jésus reviendra pour porter secours à Jérusalem encerclée par ses ennemis. Et c'est sur le mont des Oliviers qu'il descendra. L'Ancien Testament fait quelquefois l'allusion à cette colline. Mais ce passage de Zacharie est le seul où cette colline est expressément nommée. Située en face et à l'est de Jérusalem, le mont des Oliviers, qui fait environ 1000 mètres d'altitude, est séparé de la ville sainte par une gorge profonde appelée « Vallée du Cédron ». L'Éternel reviendra à l'endroit même qu'il a quitté au moment de l'invasion babylonienne. Le prophète Ézéchiel écrit « La gloire de Dieu s'éleva du milieu de la ville et se tint sur le mont qui se trouve à l'est de Jérusalem. » Au moment de l'ascension de Jésus, et alors qu'il s'élève dans les airs, dans le livre des Actes des Apôtres, on lit que les apôtres gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Nous arrivons maintenant à la conclusion de la bataille d'Armageddon, qui a déjà été décrite dans le chapitre 12. À partir d'ici, Zacharie nous donne d'autres détails concernant l'intervention spectaculaire de l'Éternel en la personne de Jésus le Messie, qui vient combattre pour son peuple. Je continue le texte du chapitre 14. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest, en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord et l'autre au sud. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes. Dans les Écritures, il est fréquent que Dieu fasse sentir sa présence par un tremblement de terre et par les montagnes qui s'effondrent. Il en est de même ici, où l'événement décrit rappelle la manifestation de l'Éternel sur le mont du Sinaï. En effet, au moment où Dieu, c'est-à-dire Jésus le Messie, posera ses pieds sur le mont des Oliviers, celui-ci se fendra et les deux moitiés ainsi formées se déplaceront vers le nord et le sud, tout comme autrefois les eaux de la mer Rouge se sont retirées d'un côté à l'autre. La vallée, ainsi miraculeusement formée, va de Jérusalem à la plaine du fleuve Jourdain. Cette voie permettra aux habitants de Jérusalem de fuir la ville suite à un tremblement de terre, ce qui est précisé dans le verset suivant. Ils ne fuiront donc pas devant leur ennemi, ce qui n'aurait guère de sens puisque l'Éternel s'est spécialement déplacé pour venir détruire les armées en guerre contre Israël. Tout porte à croire que cette vallée nouvellement créée est hospitalière et bien nivelée, avec tapis rouge, pour ainsi dire, parce qu'elle sert de voie royale pour fêter l'arrivée du Seigneur. Et c'est aussi là que Jésus rencontrera son peuple qui s'y sera réfugié tandis que l'Éternel règle ses comptes avec ses ennemis. Alors que cette vallée est une oasis de paix, partout ailleurs, c'est la guerre. Les armées ennemies tiennent toujours Jérusalem dans un étau, mais elles sont en très mauvaise posture, car non seulement elles ont affaire avec Dieu qui s'est jeté dans la mêlée, pour ainsi dire, mais elles doivent avancer dans un terrain très difficile, car les abords de Jérusalem sont très accidentés. Si on va à l'est en direction de Jéricho, il faut passer des montagnes, les chemins sont rocailleux, et se vont donc à Dodane. En direction du sud, c'est-à-dire vers Bethléem, on monte et on descend sans arrêt, un peu comme sur le manège appelé chenille. Même chose en direction du nord ou de l'ouest, où le paysage est tellement vallonné qu'il ressemble à des montagnes russes. Tout ça pour dire que, dans leur char de combat, les ennemis du peuple de Dieu n'ont guère de contact visuel les uns avec les autres. Alors, et comme je l'ai déjà dit, étant donné que tous leurs moyens de communication sophistiqués sont devenus mystérieusement inutilisables, ils se trouvent dans un brouillard complet, ce qui crée le plus grand chaos et la plus grande panique de toutes les guerres que le monde a connues. Je continue le texte de Zacharie. Vous fuyez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hazel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. La vallée des montagnes est celle que Dieu vient de créer. Le mot Hazel signifie côté, voisinage. Il s'agit probablement de Beth Hazel, un village qui n'apparaît pas dans les livres historiques, mais que mentionne le prophète Michée. Il devait se trouver quelque part au pied du versant et du mont des Oliviers, donc très proche de Jérusalem. Le peuple de Dieu quitte précipitamment Jérusalem, tout comme les Israélites se sont enfuis à toutes jambes devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda, qui a eu lieu vers 750 avant Jésus-Christ. Certains exégètes juifs considèrent que cette catastrophe fut un jugement de Dieu contre Ozias parce qu'une fois devenu puissant, le texte dit que son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Il fut rebelle à l'Éternel son Dieu, car il pénétra dans son temple pour offrir des parfums sur l'autel des parfums. Alors que seuls les prêtres descendants de Lévi ont le droit d'assumer cette fonction. Ce tremblement de terre est mentionné dans le livre d'Amos, et paraît avoir laissé une trace profonde dans l'imagination et le souvenir du peuple élu. Comme c'est le cas encore aujourd'hui pour ceux qui subissent des tragédies semblables. Par exemple, on se souvient que trop bien du tremblement de terre qui a décimé Port-au-Prince, la capitale d'Haïti en 2010, une catastrophe qui en plus fut suivie d'une épidémie de choléra. On n'a pas oublié non plus le tsunami de 2004 dans l'océan Indien. Ces tragédies sont récentes. Cependant, parfois, on entend encore des allusions au séisme de la Saint-Luc qui, au XIVe siècle, détruisit la ville de Bâle et une partie de l'Alsace. Parfois, les malheurs s'enchaînent parce que, quand ce tremblement de terre eut lieu, cela faisait 8 ans que la peste noire sévissait et qu'elle avait déjà emporté le quart des habitants. Et pour faire bon poids, bonne mesure, on était en pleine guerre de 100 ans qui ravageait l'Europe. Il y a eu un autre séisme dont on entend parfois parler, celui de Lisbonne qui, en 1755, le 1er novembre, fut suivi par un tsunami et des incendies qui détruisirent cette capitale dans sa quasi-totalité. Ce tremblement de terre est important parce que c'est le premier qui fut l'objet d'études scientifiques poussées, entraînant la naissance de la sismologie moderne. Un dernier exemple. Encore aujourd'hui, quand on fait du tourisme aux Pays-Bas, on se rend compte que les Hollandais ont été très marqués et parlent encore des inondations monstres causées par la mer du Nord qui ravagèrent le sud-ouest du pays en 1953, et qui firent plus de 1800 morts. Moi aussi, je m'en souviens pour avoir vu des images de cette catastrophe à la télé en noir et blanc. Tout ça pour dire et montrer qu'il n'est guère surprenant que Zacharie fasse allusion à un séisme destructeur, même s'il est vieux de plus de 2 siècles. La tradition juive raconte qu'au moment du tremblement de terre, au temps d'Ozias, le peuple avait cherché un refuge du côté du mont des Oliviers. On a aussi supposé que cette tragédie est à l'origine de la division de la crête du mont des Oliviers en 3 sommets. Je continue le texte. « Puis l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. » Dans l'Ancien Testament, le mot « saint » désigne souvent les anges qui constituent la cour royale du Seigneur du ciel et de la terre. Dans sa vision prophétique, Zacharie voit devant lui l'Éternel entouré de son cortège céleste. C'est aussi comme ça que Jésus envisage son retour. Il a dit « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. » L'apôtre Paul y fait également allusion dans sa première épître aux Thessaloniciens quand il écrit « Qu'il, le Seigneur, affermisse ainsi vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses anges. » La mention d'anges accompagnant le Seigneur montre qu'il ne s'agit pas d'une manifestation divine ordinaire comme il y en a eu lieu dans l'histoire d'Israël, mais d'un événement exceptionnel et unique. Le prophète annonce ici l'apparition suprême de l'Éternel qui va clore la destinée du peuple de Dieu et des nations de la terre. Et c'est exactement ce qui va se produire quand le Seigneur reviendra pour exercer sa vengeance sur ses ennemis et instaurer son royaume de 1000 ans. Nous arrivons maintenant à la dernière ligne droite de la prophétie, et elle est consacrée à l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Au cœur de cette section, Zacharie affirme « En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu, et on le priera lui seul. » Cette déclaration est faite au milieu de profonds changements des lois naturelles qui nous gouvernent. Au début du millénium, Dieu va effectuer en Palestine et sans doute sur toute la terre des transformations radicales au niveau de la lumière, du climat et de la topographie. Je continue le texte. En ce jour-là, les luminaires se contracteront et ne donneront plus de lumière. Même si nous sommes à un nouveau tournant de la prophétie, la description du prophète se rattache à la délivrance du peuple de Dieu du tableau précédent, auquel Zacharie ajoute de nouveaux détails. La fin du rayonnement solaire est une sorte de retour au premier jour de la création, quand la lumière brillait avant que le soleil et les astres ne soient créés. Seul le peuple de Dieu est éclairé par la présence du Messie, tandis que le reste de la Palestine et peut-être même du monde est dans les ténèbres. Je continue le texte. Ce jour sera unique. Il est connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit, mais au moment du soir, la lumière brillera. Ici, il me faut faire une remarque au sujet des amilléniaristes, dont le gros de la troupe est presbytérien. Ses amis et frères n'arrivent pas à croire que le Seigneur va établir un règne physique de 1000 ans sur terre. Bien qu'au verset précédent, ils prennent les mots « luminaire » et « lumière » dans leur sens littéral, dans ce verset-ci, ce n'est plus le cas, et ce jour devient l'espérance. La nuit devient l'adversité, la calamité, la détresse et l'affliction, et la lumière devient la délivrance et le salut. Étonnant, ce jour dont parle Zacharie est à prendre littéralement. C'est le jour tel que nous l'entendons, mais il est sans pareil pour plusieurs raisons. Au niveau spirituel, le caractère particulier de ce jour, sa raison d'être, son importance Et le moment de son apparition a été décidé par l'Éternel et sont connus de lui seul. Au niveau naturel et physique, ce jour n'est pas composé d'une partie lumière et d'une partie nuit, mais c'est une sorte de pénombre, un mélange d'obscurité et de clarté. Cette pénombre rappelle la création, quand dans le livre de la Genèse on lit « Or, la terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » De ce chaos surgiront une nature régénérée et une nouvelle humanité. C'est le millénium, et dans une certaine mesure, le ciel sur la terre. Il n'y aura ni jour ni nuit, ni soir non plus, puisque c'est à ce moment de la journée que la lumière faiblit graduellement, tandis que les ombres prennent le relais et la nuit s'installe petit à petit. Au moment du soir, au lieu de ténèbres, la lumière brillera, dit Zacharie. C'est-à-dire qu'un jour éclatant se lèvera. La déclaration au moment du soir, la lumière brillera, fait allusion au premier jour de la création où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière brillante annonce le nouvel ordre établi sur terre sous le règne du Messie. Un commentateur presbytérien auquel je me réfère souvent à cause de l'étendue de ses connaissances, conclut ce verset 7 du chapitre 14 en disant « Ce passage est une description symbolique de la vie de l'Église militante. » C'est ce que Jésus a prédit à ses disciples quand il leur a dit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. » Ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Ces passages de l'Évangile, selon Jean, sont merveilleux à entendre, mais ils n'ont strictement rien à voir avec le verset 7 du chapitre 14 de Zacharie. Je continue le texte. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer Morte et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. La plus grande partie de l'année, la Palestine souffre d'un manque de pluie. Et habituellement, les cours d'eau disparaissent pendant l'été. En conséquence, les sources et surtout celles qui ne tarissent jamais sont d'une importance capitale, beaucoup plus que sous nos tropiques. On sait que Jérusalem est alors bien alimentée par plusieurs conduites d'eau et des canaux souterrains. Cependant, comme la ville est entourée de collines, il est tout à fait impossible que de l'eau puisse s'écouler de Jérusalem, comme Zacharie l'indique, sauf si la topographie des lieux est radicalement transformée. Et c'est ce qui arrivera, comme je l'ai déjà dit. Dans les Écritures, l'eau est souvent une image de la purification qu'opère le Saint-Esprit dans une personne. Quant à la définition des eaux vives, elles jaillissent d'une source ou on la tire d'un puits et donc d'une nappe souterraine. C'est une eau fraîche, pure, bonne à boire et qui est abondante toute l'année. Ici, les eaux vives représentent peut-être aussi l'œuvre vivifiante du Saint-Esprit, mais en premier lieu, ce sont des sources d'eau qui existeront réellement. Cette abondance d'humidité profitera à la végétation et contribuera à la fertilité du pays qui produira une grande quantité de fruits et légumes en accord avec les promesses de plusieurs prophètes. Amos et Ésaïe écrivent respectivement « Voici venir des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure et celui qui moissonne se suivront de tout près. » Et où le vendangeur suivra celui qui sème, où le mou coulera de toutes les montagnes et toutes les collines en seront inondées. La terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs coîtront dans le repaire où gîtaient des chacals. Le prophète Ézéchiel mentionne lui aussi ses eaux vives quand il écrit. L'individu me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que les eaux jaillissaient de dessous le seuil du temple, Du côté oriental, la façade du temple étant à l'est, et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice, en passant au sud de l'autel. L'individu me fit sortir du temple par la porte nord, et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droit de cette porte. Le ciel sur la terre n'est peut-être pas pour demain, mais le jour vient où il sera bel et bien établi, car Dieu l'a promis.